La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Semaine de l'Art avec comme invité Michel Hilaire, directeur du musée Fabre de Montpellier. Bonjour Michel.
Bonjour.
Vous allez donc peut-être commencer par nous parler de comme la manière dont vous êtes arrivé à l'histoire de l'art et comment vous êtes devenu conservateur du musée Fabre et directeur du musée Fabre de Montpellier. Depuis déjà de nombreuses années, vous avez réussi à en faire un des établissements phares du paysage muséographique français. Un des musées dont on parle le plus sur la Tribune de l'Art, aussi bien pour les expositions que pour les acquisitions. Donc vous avez commencé dans quel musée ? Vous êtes conservateur du patrimoine d'abord ?
Alors je suis conservateur du patrimoine, je suis conservateur d'État, donc j'ai passé le concours des musées de France en 1984, donc il y a maintenant pas mal d'années. C'était une époque où il n'y avait pas encore l'INP, hein, donc c'était dans les années qui ont précédé la création de l'INP avec les trois stages traditionnels de l'époque, donc j'avais fait le musée d'Orsay au moment de sa préfiguration, le musée national de Fontainebleau et le musée du Louvre, où je m'étais occupé en particulier avec Pierre Rosenberg de la mise en place de l'exposition François Boucher, rétrospective François Boucher au Grand Palais qui était faite en collaboration avec le musée de Detroit. Voilà. Puis ensuite, j'ai été pensionnaire de l'Académie de France à Rome, la Villa Médicis. Et puis, j'ai intégré l'Inspection Générale des Musées avec Germain Viat à ce moment-là. Et je m'étais déjà intéressé à les musées, disons, du Sud et en particulier du musée Fabre de Montpellier que je connaissais depuis l'époque où j'étais étudiant. À Paris, donc j'ai fait d'abord des études d'histoire, après d'histoire de l'art, mais c'est vrai que j'avais pas mal visité ces musées du Sud, le musée des Augustins Toulouse, le musée de Bordeaux, le musée Calvé Avignon, le musée Granet, et précisément ce musée Fabre que je trouvais très attachant, très beau, avec une collection très marquée par l'Italie, de par la personnalité de son fondateur, François-Xavier Fabre, donc qui a passé pratiquement plus de 30 ans à Florence. Et en plus, j'avais vu une exposition quand j'étais à Rome qui avait été montée sur Fabre lui-même. Et ça m'avait intrigué, ce peintre, à la fois collectionneur, un peu personnage de roman, étrange, comme ça, qui vivait à Florence, très proche de la comtesse d'Albany, du poète Alfieri. Et puis finalement, je me suis dit, c'est un musée qui vraiment n'est pas à sa place. D'abord, il est trop à l'étroit dans ses murs. Il n'a pas vraiment le moyen de rayonner. Il n'a pas non plus d'espace d'exposition temporaire, il n'est pas climatisé, il faisait une chaleur effroyable, je me souviens l'été, les températures montaient à 40 degrés, et je me suis dit vraiment, c'est une fort dommage, l'élan qu'il y avait à ce moment-là dans les musées français, avec le musée du Louvre, avec le musée de Lyon, disons plutôt des grandes institutions muséales, plutôt dans la partie nord de notre pays, et je me suis dit vraiment le sud est quand même un peu mal servi, et là il y a un potentiel énorme, la collection est prestigieuse, la collection est exceptionnelle, et donc il a fallu attendre, il a fallu d'abord convaincre les élus pendant quelques années, la deuxième partie des années 90, pour les amener à prendre conscience qu'il y avait une grande collection Beaux-Arts à Montpellier.
Vous étiez nommé quand ? Quelle année ?
Donc j'étais nommé en 93. Mais là, vraiment, rien ne pouvait se faire. C'était la danse et la musique qui prévalaient à ce moment-là à Montpellier. Georges Frêche avait conscience qu'il y avait un beau musée, mais c'était pas vraiment dans les priorités à ce moment-là de la municipalité. Il fallait d'abord convaincre, il fallait d'abord dire qu'il y avait une collection, qu'on pouvait en faire quelque chose, qu'on pouvait l'enrichir, qu'on pouvait surtout faire des expositions. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait avec surtout des campagnes de restauration, parce que je crois que l'enjeu était à ce moment-là de sauver la collection, car elle était vraiment dans un état épouvantable. Rien n'avait été fait depuis des années, il y avait vraiment des réserves insalubres, beaucoup de tableaux étaient en danger. J'ai fait des campagnes énormes de centaines de tableaux avec des équipes formidables d'ailleurs. Je me souviens de restaurateurs qui ont mis des facings sur les œuvres. On a véritablement sauvé la collection de Montpellier. Ça, c'était la priorité, des poussiérages, des bichonnages, des campagnes aussi pour désinfecter les réserves. Et après, je me suis dit, à partir du moment où la collection est sauvée, on pourra en faire quelque chose un jour. Voilà. Et donc, finalement, ça a beaucoup servi l'étude de programmation, après, qui a commencé à débuter vers la fin des années 90, c'est-à-dire en 99, 2000, avant finalement le lancement du concours, puisque ce qui a été le point déterminant de Montpellier, c'est le départ de la bibliothèque.
Alors vous avez très vite, peut-être qu'on va revenir un petit peu en arrière, puisque vous avez dit que vous êtes arrivé en 93 avec un maire qui était une très forte personnalité, Georges Frêche.
L'une des plus fortes de France.
Tout le monde s'en souvient, très controversé, mais qui, du point de vue culturel, était manifestement intéressé. Mais vous dites que quand vous êtes arrivé, il ne s'intéressait pas au musée. Donc est-ce que vous pouvez expliquer comment on peut, parce que finalement on s'aperçoit qu'il y a parfois de très bons conservateurs qui arrivent dans des municipalités où les maires, et c'est de plus en plus vrai hélas, parce que Georges Frêche, je crois, il était agrégé d'histoire ou de philosophie.
De droit.
De droit, il était agrégé, oui. En tout cas c'était quelqu'un qui était cultivé, qui avait une
historien,
culture,
surtout était historien, une culture, voilà, plutôt une culture d'historien, une culture politique. Voilà. Peu intéressé par les arts plastiques, c'est sûr, et la peinture.
Alors vous avez, comment est-ce que vous avez abordé cette forte personnalité? Donc je ne pense pas que c'était facile de lui faire faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire, mais pour l'orienter vers le musée, qu'est-ce que vous lui avez dit et qu'est-ce que vous diriez finalement si vous étiez conservateur qui arriviez dans une ville aujourd'hui avec un maire, c'est souvent le cas, qui ne s'intéresse pas à l'art et qui ne s'intéresse pas à son musée, qu'est-ce que vous diriez pour convaincre l'élu? Qu'est-ce que vous avez dit pour convaincre l'élu que c'était important?
En fait, quand il y a un maire qui s'intéresse aux arts plastiques, je dirais que ça facilite peut-être les choses et peut-être même parfois ça complique aussi les choses. Là, l'enjeu, c'était de montrer qu'il y avait un musée qui pouvait rayonner bien au-delà des frontières de Montpellier et donc finalement servir l'image générale de la ville de Montpellier. Au même titre que le Festival de Radio France, qui était à ce moment-là très prestigieux, que la danse, le Festival international de danse. Donc il y avait beaucoup de choses, le théâtre, enfin il y avait beaucoup d'autres secteurs qui rayonnaient très fortement. Et ce musée était un musée qui avait été un peu laissé à l'abandon, il y avait eu beaucoup de conflits, beaucoup de conservateurs s'étaient succédés, Frêche avait été un peu découragé, je dois dire, et s'était dit, bon, bah finalement, ce musée, il fait partie un peu des meubles à Montpellier, voilà, ça peut attendre. Et en fait, ce que j'ai essayé de lui montrer, c'est qu'il y avait une collection qui pouvait vraiment servir les intérêts de Montpellier, qu'on pouvait faire des expositions formidables, qu'il y avait quand même des grands noms, qu'il y avait Courbet, qu'il y avait Poussin, qu'il y avait David, qu'il y avait Greuze, qu'il y avait aussi beaucoup d'autres artistes. Basile, bien évidemment, il s'intéressait beaucoup par contre à Basile, puisque quand je suis arrivé, il venait d'acheter pour la ville de Montpellier la propriété familiale des Basiles, le domaine de Méric aux portes de Montpellier, qui venait d'être négocié par les descendants de l'artiste. Donc vraiment, Basile était un nom, était une personnalité qui l'intéressait beaucoup, et d'ailleurs il m'a fortement soutenu après par la suite pour acheter les quelques Basiles qui restaient encore sur le marché. Donc en fait, ce que je dirais, c'est qu'il faut montrer que le musée peut rayonner, peut du coup faire que la ville, comme Frêche avait mis l'accent sur la culture à Montpellier, c'est une ville culturelle, d'ailleurs c'est toujours le cas à l'heure actuelle avec son successeur Philippe Sorel, mais donc il faut aussi lui montrer que ça marche. En fait, Frêche était quelqu'un qui voulait que pas d'ennui, et on lui avait toujours montré que le musée était un peu source de conflits, problématique, et là au contraire j'ai essayé de lui montrer que le musée pouvait avancer, pouvait marcher, pouvait rayonner, tout simplement.
Et donc vous avez réussi à vendre l'idée de travaux au musée pour le transformer en un grand musée moderne.
Alors ça s'est fait progressivement, parce que d'abord on m'a bien fait comprendre que le musée était dans ses murs, qu'il y avait plus de 4300 mètres carrés et que pour l'instant on en resterait là. Donc on pouvait éventuellement le relooker, refaire comme ça quelques salles, refaire quelques circuits électriques, mais ça je trouvais ça épouvantable parce que souvent c'est du replâtrage et après ça veut dire qu'on fait pas le projet. Donc on a fait quand même quelques réaccrochages, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai fait beaucoup de campagnes de restauration, donc finalement il y avait beaucoup d'œuvres qui sortaient, on a réaccroché, on a quand même un peu bichonné les tableaux, on a refait quelques cadres, on a repeint peut-être quelques salles, mais je voulais pas aller au-delà, parce que sinon ça voulait dire que le musée pouvait être refait à minima. Et ensuite, ce qui a été déterminant, c'est que Frêche a décidé de sortir la bibliothèque qui était finalement collée au musée depuis l'origine, depuis le temps de Fabre, et les deux institutions ne pouvaient pas se développer ensemble. C'est évident, il fallait faire un choix politique. Et là, c'est vraiment le choix politique. C'est vraiment Frêche qui l'a décidé de construire la grande médiathèque Émile Zola actuelle, qui est construite par Chemetov, dans le quartier plus moderne de Montpellier. Et d'emblée, ça libérait 4400 mètres carrés. Donc ça faisait un appel d'air absolument extraordinaire. Il a décidé de le rendre au musée Fabre. À un moment donné, d'ailleurs, ça ne s'est pas fait aussi simplement, parce qu'il a même été question, à un moment donné, avant ce choix politique de sortir la bibliothèque, il a même été question l'intention de construire un nouveau musée Fabre, peut-être dans une zone un peu périphérique de Montpellier, ce qui à mon avis aurait été catastrophique, puisque c'est vraiment au cœur du centre historique de Montpellier, dans le lieu créé par Fabre, que ce musée devait être réhabilité. Voilà, donc c'est à partir de là, en 2000, cette bibliothèque est inaugurée, et donc là on lance l'étude de programmation, on lance le concours d'architectes qui va aboutir en 2001 au choix des architectes, Brochet-Nebout, et ensuite bien sûr à la fermeture totale du musée en 2003.
Alors la première fois que j'ai découvert, je crois que je suis allé au musée Fabre, c'était pour une exposition qui m'a beaucoup marqué sur la peinture française du XVIIe siècle, c'était avant ces travaux. Les expositions avaient lieu un petit peu hors les murs, en partie hors les murs, dans un pavillon qui se trouve dans sur le cours devant le musée. Parlez-nous un peu de cette exposition et de la peinture du XVIIe siècle. Vous êtes au départ spécialisé, vous connaissez très bien la peinture du XVIIe siècle.
Alors en fait, ce pavillon du musée Fabre, il s'appelait comme ça à l'époque, il avait été lancé par la municipalité, réhabilité par la municipalité, c'était une salle municipale, et avec le soutien de la direction des musées de France. Et ça avait été réhabilité avant mon arrivée à Montpellier. Donc finalement, c'était une chance, puisque Fraîche avait compris que le musée étant évidemment trop à l'étroit, si on voulait quand même faire des expositions, il fallait avoir un lieu en face, pas trop loin quand même, mais qui pouvait aussi montrer que c'était le pavillon du musée Fabre. Et donc, effectivement, ce qui a été aussi le détonateur d'emblée quand je suis arrivé à Montpellier, un signe fort, ça a été de montrer à Fraîche qu'une grande exposition internationale pouvait avoir lieu dans sa ville, attirer énormément de visiteurs. Elle avait fait presque 60 ou 70 000 visiteurs, ce qui était considérable à l'époque, puisque aujourd'hui, on se rend pas compte de l'état. À la fin des années 80, des années 90, il y avait peu d'expositions l'été dans toutes ces villes du Sud. C'était pas vraiment les habitudes. Il y avait peu de chiffres de fréquentation. Et Fraîche a compris d'un coup, ça l'a émerveillé, qu'une exposition que j'avais créée pour Montréal, puisqu'en fait elle a été créée pour le musée des Beaux-Arts de Montréal à l'origine, avec une moisson extraordinaire des plus beaux tableaux du XVIIe siècle français dans les collections publiques françaises, le Louvre inclus d'ailleurs, alors qu'il y avait principalement des œuvres qui venaient d'églises d'ailleurs, je me souviens du Stella, de l'église des Andelys, des choses de Toulouse, le Valentin de Toulouse bien sûr, les tableaux de Montpellier, enfin, et il y avait des Poussins bien sûr et Claude Lorrain qui venaient du Louvre. Donc c'était vraiment une exposition pour Montréal à caractère international qui avait été aussi montrée au musée des Beaux-Arts de Rennes avec Jean Aubert et Patrick Ramade à l'époque, et ça avait été vraiment une exposition qui avait fait beaucoup beaucoup parler d'elle, puisqu'il y avait vraiment, pour la première fois, on voyait on voyait un petit peu ce qu'avait fait Pierre Rosenberg au début des années 80 pour la peinture française dans les collections américaines.
Au
Grand Palais, voilà. Et là, c'était un peu l'équivalent, mais en puisant vraiment dans les ressources des musées français. Ça mettait vraiment en lumière aussi les trésors des musées français. C'était quand même le but. Et d'ailleurs, dans le même temps, je travaillais avec une équipe, avec Méjanès et aussi Barbara Bréjon, pour faire la même chose pour le dessin. On avait fait au Louvre une grande exposition sur le dessin français du XVIIe siècle à travers les collections publiques françaises. Et là aussi, tous les musées, petits, grands, moyens, étaient convoqués. Et là, ça avait été vraiment une très très belle expérience. Et finalement, qui se suivait, donc c'était un peu les mêmes sujets, la même enquête, à peu près à la même époque. Donc ça a été déterminant.
Avant ces travaux qui ont commencé et qui ont fermé le musée pendant plusieurs années...
Quatre ans.
À part cette exposition, qu'est-ce qui vous marque de cette période avant travaux?
Alors, ce qui me marque, c'est effectivement la possibilité de faire des expositions dans ce pavillon du musée Fabre, qui m'a beaucoup, beaucoup servi, qui m'a servi, par exemple, aussi à révéler la collection différemment. Je me souviens que ce qui avait été un vrai moment important, ça avait été la collaboration qu'on avait avec l'Institut néerlandais, à ce moment-là à Paris, qui avait montré la collection nordique de Montpellier, qui est très connue, très prestigieuse, avec tous les grands noms de l'art flamand et hollandais. Et on avait ensuite montré dans ce pavillon du musée Fabre la collection flamande et hollandaise de Montpellier, en gros la collection Valedo, mais pas seulement. Et on avait d'ailleurs bien sûr fait un catalogue scientifique très complet sur cette collection qui était publié pour la première fois. Et donc on avait fait une jolie muséographie qui révélait cette collection. Et là déjà, la municipalité, les visiteurs voyaient presque en face du musée. Parce que finalement, on voit toujours les choses dès qu'on les bouge. Hein. Dans le musée, on finit par plus les voir. Et là, on les avait installés dans ces espaces modernes, contemporains, très beaux, très purs. Et finalement, les gens se disaient, mais oui, il y a une collection exceptionnelle dans un musée du Sud. C'était d'autant plus surprenant d'ailleurs de voir autant de tableaux nordiques. Et donc voilà, et ce qui m'a aussi frappé, c'est de pouvoir, ce qui m'a marqué à ce moment-là, c'est de pouvoir aussi ouvrir le musée à l'art contemporain, parce que finalement le musée était très s'arrêtait brutalement finalement un peu avec un XXe siècle un peu moins convaincant, avec quelques acteurs comme ça du mouvement Support Surface, mais c'était quand même très lacunaire. Et donc l'enjeu a été aussi de tisser des liens très forts avec beaucoup d'artistes de la région, ce que j'ai fait dès les années 90 avec tous les acteurs du Support Surface que j'ai côtoyé de près, avec Soulage bien sûr, que j'ai côtoyé grâce à Michel Laclotte à ce moment-là, qui m'avait fortement encouragé à rencontrer l'artiste qui travaillait entre Paris et Sète, donc aux portes de Montpellier, qui d'ailleurs j'ai
pas
ramené.
Aussi connu qu'aujourd'hui d'ailleurs.
Qui était déjà extrêmement connu, mais qui était un peu déçu par le musée Fabre, par son caractère d'abandon, il y mettait pratiquement plus les pieds, et j'avais réussi à le faire venir précisément pour voir Grand Siècle. Je me souviens, ça a été un très grand souvenir. Là, je me souviens d'avoir visité cette exposition sur la peinture française du XVIIe siècle, qui était d'ailleurs éclatée en deux lieux, le pavillon du musée et le musée Fabre lui-même, tellement l'exposition était gigantesque, et Soulage était venu. Donc on a fait toutes ces expositions, qui d'ailleurs ont culminé en 2000 avec la collaboration extraordinaire, je dois dire, que j'ai eue avec Jacques Tuillier. Jacques Tuillier était vraiment une personnalité pour moi hors pair, d'une générosité absolument phénoménale pour les jeunes conservateurs. Il vraiment donnait tout son temps. Je me souviens d'heures et d'heures de travail au Collège de France avec lui, même aussi chez lui, mettant à ma disposition toute la documentation. Vraiment, ça a été quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, que je lui rends vraiment hommage, parce que il m'a aidé aussi à monter sur cette grande exposition Bourdon, qui était d'ailleurs dans les tiroirs depuis fort longtemps.
Bourdon, c'était avant, donc là.
En 2000. C'était avant la rénovation du musée. Alors, il y avait ce projet depuis vraiment longtemps. Il y avait, depuis des années, on voulait faire une exposition Bourdon. Bourdon, qui est quand même le grand peintre né à Montpellier du XVIIe siècle, qui a plus, est présent très fortement dans la ville avec ce grand retable qui est toujours conservé à la cathédrale Saint-Pierre, et surtout quelques tableaux très célèbres, dont l'un des chefs-d'œuvre du musée Fabre, qui est l'homme au ruban noir, qui est vraiment un tableau sublime. Et donc, l'enjeu a été de convaincre, et La Fraîche, je dois dire, a vraiment suivi, parce que il connaissait la personnalité de Bourdon, il savait que c'était un peintre protestant, un peu contestataire, un peu hors norme finalement, qui avait eu cette aventure un peu romanesque lors de ses séjours à Montpellier, ce duel dans l'enceinte même de la cathédrale. Donc tout ça était connu. Et donc avec Jacques Tuillier, on a pu faire cette exposition avec un gros catalogue à la RMN qui vraiment fait toujours référence, et avec toutes les gravures. Et ça a été vraiment là, je crois, un peu un sommet en 2000, au moment même où démarraient les études et le concours pour la rénovation du musée Fabre.
Ce concours, ça s'est déroulé comment ? C'est-à-dire que cette idée de rentrer finalement par, si je ne me trompe pas, on rentre en une espèce de sous-sol. Vous avez réorganisé l'ensemble du parcours. Vous l'avez conçu comment ? Avec les architectes, avec qui est à l'origine de, enfin qui est le créateur finalement de ce musée ?
Alors en fait, ce qui a été déterminant pour ce musée, c'est l'étude de programmation. C'est-à-dire qu'on a fait vraiment un PSC, un projet scientifique et culturel extrêmement élaboré, où on a vraiment dit, parce que ça a été vraiment la charte fondatrice du musée Fabre, qui a été validée d'ailleurs par la ville, par l'État, bien évidemment, la DRAC, la direction des musées de France, et c'est cette charte fondatrice qui permet de rénover un musée. Parce qu'on ne peut pas rénover un musée en se disant, bon voilà, on va refaire des espaces, etc. C'est plutôt d'abord, qu'est-ce qu'on veut dire dans ce musée ? À partir de l'existant, faire un état des lieux, et à partir de là, qu'est-ce qu'on va vouloir indiquer dans le projet architectural, et en même temps au service des collections, puisque de toute façon, l'enjeu, c'est de servir cette collection magnifique, comme je vous l'ai dit au départ, qui était quand même plutôt desservie dans le bâtiment ancien. Et donc là, on est parti du constat qu'il fallait d'abord prendre en compte trois bâtiments d'époques différentes, donc trois niveaux de bâtiments d'époques différentes, trois qualités de bâtiments vraiment extrêmement différents. Et ensuite, il fallait prendre conscience qu'on était à Montpellier, pas du tout ni à Strasbourg, ni à Lyon, ni ailleurs. On avait là un musée de collectionneurs. Donc il fallait retrouver, non pas refaire à l'identique, de façon archéologique, la collection Fabre, la collection Goyas, la collection Valdo, mais qu'il fallait quand même rendre hommage à ces grands donateurs et retrouver l'esprit de ces collections. Même s'il y a d'autres tableaux qui ont pu, bien sûr, sûr, au fil des années, des siècles, venir s'y ajouter. Mais en tout cas, donc, il y avait l'esprit des collectionneurs à prendre en compte. Il y avait aussi la forte volonté d'ouvrir le musée sur l'art moderne et contemporain. Ça a été aussi un choix de la ville. Et la donation Soulages qui s'est concrétisée en 2005, je rappelle 20 tableaux, une douzaine de dépôts et des achats d'ailleurs que j'avais fait dès la fin des années 90.
Vous étiez le premier musée Soulages finalement.
Voilà, on était le premier Soulages. On a acheté des toiles importantes de Soulages, des immenses toiles d'outre noir, hein, très beaux, que j'avais acheté à l'atelier de l'artiste à ce moment-là. Et donc Soulages a été aussi, il a vu que le musée s'engageait, que la ville s'engageait. C'est sans doute aussi peut-être pour ça. Et en souvenir bien sûr de ces liens très étroits qu'il avait avec Montpellier, avec ce musée, l'école des Beaux-Arts qu'il a fréquenté pendant la guerre et la découverte du musée Fabre et de Courbet. Donc tous ces facteurs ont fait que Soulages après a été naturellement amené à donner. Mais en tout cas, ce qui a été important, c'est de définir ce programme, de fixer un cap, de réorganiser aussi un bâtiment de façon plus lisible, parce que c'est vrai que trois bâtiments différents, c'est compliqué.
Vous parlez de trois bâtiments différents, c'est-à-dire ?
Alors, il y avait le Collège des Jésuites, la façade actuelle, il y avait l'hôtel de Massilian, qui était le musée primitif de Fabre, qui donnait sur la petite rue, sur le côté, et il y avait la bibliothèque. Des bâtiments 19e. Et le quatrième ensemble, c'est l'entité que les architectes ont créée de toutes pièces pour construire le pavillon contemporain, pour précisément accueillir en haut la collection Soulages et en dessous les salles contemporaines. Voilà. Et bien sûr, creuser en sous-sol la salle d'exposition, le plateau de 900 mètres carrés, qui est de plein pied avec le hall Buren et surtout avec l'esplanade, puisque là, on a creusé sous le bâtiment pour mettre le musée de plein pied, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'on montait au premier étage pour rentrer dans le musée Fabre. Il y avait un escalier qui a été détruit. Voilà.
Ce qui est la seule petite critique que j'aurais pu faire et que j'ai faite peut-être d'ailleurs à l'ouverture du musée, qu'on rentre presque dans un sous-sol qui est un petit peu sombre. Enfin, c'est l'entrée, on est en plein soleil à Montpellier et on rentre avec... effectivement, l'œuvre de Buren, bon, c'est pas l'artiste que je préfère, mais bon, c'est la seule petite critique. En revanche, après, vous avez une salle d'exposition qui est extrêmement performante et qui...
Extrêmement performante et qui a permis d'ailleurs de monter en puissance d'année après année parce qu'elle était équipée, elle avait des éclairages qui ont été refaits d'ailleurs depuis la réouverture, qu'elle est très flexible, on peut construire comme on veut des cloisons et elle est vraiment surtout aux normes internationales. Mais en tout cas, ce parti pris un peu caverneux que vous critiquez, je le comprends, ça a été souvent répété, mais en même temps, je comprends les architectes qui ont voulu créer des effets de lumière et de contraste. C'est un musée qui permet de passer de l'ombre à la lumière en permanence, et quand on rentre dans le hall Buren, précisément, ensuite, le début du parcours, c'est la grande salle Richier, cette immense cour lumineuse, qui crée un très fort contraste, et on retrouve cette lumière à foison dans la grande cour au début du parcours des collections. Donc, il y a un jeu de contraste qui est vraiment voulu par les architectes, avec le béton naturel, comme ça, qui crée cette ambiance assez moderniste, un peu sombre, effectivement. Mais moi, je dois dire que je trouve que c'est assez réussi.
On a parlé donc de la vie du musée Fabre avant ces travaux. Donc ensuite, 4 ans de travaux. Des travaux gigantesques, hein. faut voir ce que c'était.
Oui,
c'était...
oui quand on revoit les images aujourd'hui, nous avons bien sûr archivé tout ça, ça a été colossal, parce que ça a été des terrassements, des fouilles archéologiques dans les cours à l'arrière du bâtiment, les fouilles d'ailleurs légales, hein, qui sont ordonnées par la loi, mais là, parce qu'il y avait un habitat médiéval, bien évidemment, dans toute cette zone-là, mais Montpellier n'est pas une ville antique, mais en tout cas, il y avait une forte occupation médiévale, très enrichissante, d'ailleurs tout ça a été documenté. Et surtout réhabiliter ces bâtiments, creuser, construire cette aile contemporaine, mettre sur presque... il y avait le pavillon du XVIIe siècle, à un moment donné, comme on creusait, on a ces images spectaculaires où on le voit presque suspendu avec des étés comme ça. On se dit un bâtiment comme ça qui est là, presque suspendu avec les marteaux-piqueurs, enfin, c'est les grues gigantesques qui étaient dressées devant, sur l'esplanade au-dessus du bâtiment. Donc ça a été vraiment un chantier phénoménal, un chantier qui rendait justice aussi à la qualité historique du bâtiment, c'est-à-dire que tout ce qui était beau a été conservé et même réhabilité, parce que la fameuse galerie des Griffons, qui avait beaucoup parlé d'elle, puisque c'est quand même cette galerie que Fabre a voulu en 1828 pour son inauguration, pour son musée, elle avait été massacrée avant la guerre et massacrée à la fin des années 70. On l'avait finalement entresolé avec des poutres de béton. Il y avait deux étages dans cette galerie magnifique. Donc l'idée des architectes a été de lui redonner sa pureté, son volume d'origine. Ça, c'est un des exemples. La fameuse galerie des colonnes, qui est une des rares galeries conservées, avec peut-être Chantilly encore de cette époque, a été aussi entièrement réhabilitée dans son volume, avec l'éclairage zénithal, avec les couleurs d'origine, les mosaïques au sol ont été restaurées. Dans les appartements de Fabre, par exemple, du fondateur du musée, dans ces appartements dans lesquels, d'ailleurs, il est mort en 1837, ont été eux aussi réhabilités. Donc on a essayé quand même de garder tout ce qui avait de l'intérêt. Bien sûr, d'autres salles sont plus contemporaines puisqu'elles n'avaient pas de caractère exceptionnel. Donc, si vous voulez, on les a mises aux normes. Mais en tout cas, je crois que ce qui fait l'intérêt de ce projet, c'est qu'on navigue dans le temps et on change tout le temps d'ambiance et d'espace. On est à la fois dans des zones très contemporaines qui d'ailleurs ont bien tenu, je dirais, 10 ans après. On fête cette année les 10 ans de cette réhabilitation et je trouve que ça a quand même tenu. Et en même temps, on rentre dans des ambiances qui peuvent évoquer le musée Fabre ancien, finalement, et qui avait ce caractère assez attachant.
Alors, donc la réouverture en 2007, c'est ça ? Vous en faites 10 ans ?
Oui, tout à fait, 2007.
Et depuis 2007, on a l'impression que le musée Fabre est toujours, et je ne le dis pas pour flatter, je pense que les auditeurs et les lecteurs de la Tribune de l'Art savent que je n'ai pas l'habitude de flatter, je dis ce que je pense, mais depuis 10 ans, le musée Fabre a toujours été devant l'actualité, dans l'actualité avec, alors là, j'aimerais, je ne sais même pas si on va avoir le temps, dans le temps qui nous reste, on a quand même encore plus d'une demi-heure, mais de parler de, et on parlera également d'autres sujets, mais de parler de tout ce que vous avez fait avec, alors, une équipe de conservation qui maintenant, il y a une première équipe de conservation qui était notamment composée de 3 conservateurs qui sont partis. Donc je pense à Sylvain Amic,
Jérôme Farigoul et Olivier Zeder.
Et Olivier Zeder, excusez-moi. Donc Jérôme Farigoul est au musée de la vie romantique. Maintenant Sylvain Amic est à Rouen et Olivier Zeder est à l'INP. Donc vous avez. Bon, mais vous étiez une équipe qui avait fait énormément de choses. C'est quand même impressionnant. Alors à la fois. Des acquisitions, des expositions, et on verra après que c'est pas parce qu'ils sont partis que vous nous avez arrêtés. Le musée est toujours aussi actif avec notamment Pierre Stéphanoff qui est arrivé pour la peinture ancienne et également très très actif sur tout ça. Prenons peut-être par exemple déjà, bon, on avait commencé avec les expositions, on parlera des acquisitions et de la collection permanente après. Prenons les différentes expositions. Alors un nombre très important de monographies sur les artistes montpelliérains. Donc vous avez commencé avec Bourdon, ensuite il y a eu Fabre. D'abord vous avez, enfin, peut-être dans le désordre, hein, je ne sais pas. Il y a eu Fabre, oui. Cabanel.
Il y a eu Cabanel, Raoux.
Absolument.
Basile, évidemment. L'année dernière, qui d'ailleurs continue encore à Washington.
À Washington, effectivement. Oui. Il reste des artistes de Montpellier que vous n'avez pas traité. Peut-être
un jour, il y aura peut-être Glaise sera fait un jour. C'est un artiste très intéressant, très surprenant, qui d'ailleurs permettrait de mieux comprendre ce milieu du 19e siècle. C'est un artiste qui a d'ailleurs été très proche de Bruyas au début et même à la fin. Bruyas a toujours conservé d'excellentes relations avec Glaise. Et puis, bon, il y a sans doute encore
des petits artistes.
Les Ranques aussi. Les Ranques mériteraient Antoine et Jean Ranque. D'ailleurs, c'est un projet que nous avons parce que nous venons d'acheter 2 tableaux de Ranque.
Dont on a parlé.
Voilà. Et donc, c'est sans doute un artiste autour de ce portrait français du début du 18e siècle et puis avec cette carrière qui s'est terminée à Madrid. Et il est très très bien représenté au Prado. Donc, voilà. Ranque est aussi un artiste qui m'intéresse beaucoup et peut-être un jour, mais là c'est peut-être un peu plus difficile, il faudrait rendre hommage à Vien. Voilà. On l'a fait avec un très bel accrochage que Pierre Stéphanoff effectivement a réalisé dans les salles, avec quelques prêts d'ailleurs.
C'est beaucoup, un nouvel accrochage que vous faites actuellement
qui est terminé.
Qui n'est pas encore vu.
Voilà, qui a été fait et avec une petite publication. Mais c'est vrai qu'une grande exposition Vien permettrait d'y voir plus clair sur cet artiste montpellierain qui a quand même dominé une longévité incroyable d'ailleurs et qui a dominé une grande partie de l'art de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Voilà.
Sur ces, alors on reviendra après aux autres expositions parce que vous n'avez pas fait que l'art montpelliérain. Et sur ces grandes monographies, laquelle retenez-vous et qu'est-ce qu'elles vous ont appris ?
Alors, ce que je retiendrai, c'est peut-être d'abord la monographie dédiée à Fabre. Parce que Fabre, c'est vrai que quand on parle de Montpellier, c'est le musée Fabre. On a la chance d'avoir finalement le nom du donateur. Hein, et il est, je sais, dans les années 70, beaucoup voulaient débaptiser le musée de Montpellier Est-ce qu'il trouvait que Fabre était fait un personnage, parce que pour toute la génération, je dirais, du XXe siècle et surtout de la deuxième moitié du XXe siècle, le néoclassicisme, la personnalité de Fabre, tout ça, c'était honni. Hein, c'était une peinture qu'on ne voulait plus voir, c'est néoclassique, rébarbatif, davidien, pompeux, raide, académique. Donc tout ça, c'était une horreur. Et en fait, Fabre a malheureusement joui d'une pâtie, plutôt, d'une réputation assez désastreuse localement. Mais donc l'enjeu était de le remettre à sa place d'abord et surtout de lui rendre justice en tant que peintre, très bon élève de David, très original finalement, avec une personnalité un peu inclassable, un peu hors norme, un destin italien, ça aussi c'est tout à fait singulier, et aussi des tableaux qu'on ne connaît pas, parce que le musée Fabre ne conserve pas tous les tableaux de Fabre, heureusement, même si les plus beaux tableaux sont là. Je pense par exemple à la mort d'Abel ou au portrait de Canova, hein, qui sont des chefs-d'œuvre de Fabre. Donc on a rendu hommage à Fabre, et je veux dire, ça a été une très très belle découverte de faire venir tous ces tableaux, ces portraits qui venaient d'Angleterre, des États-Unis, de l'Europe du Nord, puisque finalement il a connu beaucoup un monde international qui gravitait par Florence, et tous ces gens remporter dans leur pays ces tableaux. Et donc, on les a réunis à Montpellier. On a fait la première publication sur cet artiste avec le concours, bien sûr, de la spécialiste de Fabre qui est professeur Laure Pélissère, hein, qui est maintenant à la retraite, mais qui a vraiment consacré sa vie. Hein. D'abord, elle a fait sa thèse sous la direction avec Jacques Tuillier, et elle a consacré une grande partie de son activité à la connaissance de Fabre et de son entourage et de son temps. Et donc, ça a vraiment été une très, très, très belle expérience. Mais l'expérience autour de Cabanel aussi a été intéressante.
On parlait des peintres qui étaient au vous parliez de Tuillier tout à l'heure, Jacques Tuillier. Oui. Il vient de paraître un ouvrage que je chroniquerai sur la Tribune de l'Art, consacré justement aux écrits de Tuillier sur cet art académique que tout le monde détestait. Donc Jacques Tuillier, avec Bruno et Jacques Foucard et avec d'autres, mais essentiellement ces personnes-là, ont réhabilité un art qui n'était plus regardé. Et Cabanel absolument faisait partie. Voilà. D'ailleurs, c'est pas totalement terminé, parce que je me rappelle, lors de l'exposition à Cabanel, il y a eu des critiques dans certains journaux.
Oui.
Mon Dieu, que fait-on? On réhabilite Cabanel, etc. Alors que c'est vraiment un grand artiste. Alors, c'est pas le plus grand artiste, évidemment, Basile, etc. Plus important. Mais Cabanel s'est révélé comme un excellent artiste.
Cabanel s'est révélé comme un excellent artiste et surtout le fond de Montpellier est tout à fait remarquable, parce qu'il faut quand même le rappeler, Alfred Bruyas a commencé son activité de collectionneur, d'amateur, au contact de Cabanel. Il était très proche, il était montpelliérain comme lui, et il a fréquenté, quand il était pensionnaire à la Villa Médicis à Rome, il a voyagé à plusieurs reprises à Rome, et c'est lui qui lui passe ses premières commandes. D'ailleurs, la Albaïdée, le Moine Romain, la Carruccia, ce sont des chefs-d'œuvre du musée de Montpellier pour l'art du XIXe siècle, et Cabanel est très fortement présent dans la collection. La Phèdre de Cabanel est un tableau formidable. Alors, c'est un tableau qui est presque le summum de l'académisme français du 19e siècle, mais c'est un tableau d'une originalité absolue, d'une coloration très rare surtout, et d'une correction de dessin tout à fait extraordinaire. Là, c'est vraiment Cabanel qui a voulu ce tableau pour sa ville natale. C'est le grand professeur de dessin à l'école des Beaux-Arts qui a formé plus de 650 élèves qui voulaient rester dans les murs du musée Fabre.
Mais on parle de Bruyas. Bruyas, lui, il se posait pas la question, est-ce que c'est un artiste académique, pas académique, puisqu'il était aussi bien Courbet que Cabanel.
Alors, non, il a évolué quand même. Il est resté en bon terme avec Cabanel, la correspondance en témoigne, mais il faut quand même remarquer qu'après la rencontre avec Courbet, Bruyas se désintéresse de l'art de Cabanel. C'est-à-dire qu'il a plus fait rentrer Cabanel dans sa collection. En gros, les derniers tableaux s'arrêtent vers 1852-53, même si, effectivement, jusqu'à la fin de sa vie, il est resté en très très bon terme avec Cabanel.
Alors, un autre artiste que Bruyas aimait bien, c'est Tassart.
Tassart.
Il n'est pas Montpellier, hein, Tassart, sauf
erreur. Pas du tout.
Est-ce que vous y envisagez un jour, il n'y a pas eu de monographie de Tassart?
Tassart mériterait, je pense, avec un autre musée, peut-être même le musée d'Orsay, devrait lui rendre hommage, et peut-être un autre musée français ou même à l'étranger. Je pense que là, il y a matière. En tout cas, Montpellier a beaucoup de très très beaux tableaux de Tassart, évidemment, à cause de Bruyas. Et Le Ciel et l'Enfer, par exemple, qui est un tableau absolument extraordinaire. Mais Tassart est vraiment un jalon très important pour comprendre la personnalité complexe de Bruyas. Parce que après avoir connu Cabanel, il connaît Glaise, bien sûr, il connaît Tassart, il s'enthousiasme pour Tassart, et il passe après à Delacroix et à Courbet. Couture entre-temps, mais En tout cas, c'est vraiment Tassart qui a été un jalon très très important et Bruyas l'a vraiment soutenu. Alors c'est un artiste qui était souvent en grande difficulté financière, souvent très désespéré, très mélancolique et Bruyas a vraiment été un très très fort soutien et les lettres là aussi sont très belles, les lettres échangées entre les deux hommes.
Alors, parmi les expositions, parce que le musée de Montpellier n'est pas, le musée Fabre n'est pas un musée régional, c'est un musée international qui fait également des expositions apportées. Alors, tous ces artistes, il faut les faire, c'est des choses qu'il faut faire, mais il y a également des expositions. Alors, j'en ai une qui me vient à l'esprit qui était récente, c'est sur la peinture napolitaine, mais il y en a eu bien d'autres. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les quelques grandes expositions que vous avez faites depuis 10 ans?
Alors, ce qui m'a guidé, si vous voulez, ce qui a été vraiment ma ligne de conduite, c'est effectivement de rendre hommage à ces grands pères fondateurs, je dirais, du musée de Montpellier, les personnalités qui sont évidentes pour le musée Fabre, qui seraient peut-être moins évidentes à Nancy ou à Tours ou à Nantes. Mais à Montpellier, il y a vraiment des gens qui s'imposent. Et donc, il fallait leur rendre hommage, mais sans faire de provincialisme. Quand on fait une exposition Basile, la preuve, elle finit sa course à Washington. Quand on fait une exposition Cabanel, elle aurait pu avoir lieu au musée d'Orsay, sans problème. Cabanel est quand même un des personnages les plus importants pour comprendre l'évolution de l'art sous le Second Empire. Donc, il y a des noms qui s'imposent. Quand on fait Fabre, là aussi, on est dans disons un élan international. D'ailleurs, l'exposition a été reprise à la GAM, à la Galleria d'Arte Moderna de Turin, après.
Un peu réduite, je crois.
C'est la même exposition avec un catalogue en italien. Alors, il y a peut-être un ou deux prêts qui faisaient défaut, mais en tout cas, c'était la même exposition. Donc là, c'était vraiment une volonté de faire connaître ces grands artistes qui ne sont pas... Ils sont montpelliérains de naissance, mais Bourdon se réduit pas à Montpellier. Bien sûr.
Bourdon,
absolument. Voilà. Donc, mais ensuite, ce qui m'intéressait aussi, c'est d'ouvrir le musée à d'autres domaines qui sont peut-être pas forcément extrêmement représentés à Montpellier, mais qui permettent de rayonner et surtout de tisser des liens de collaboration. Ça a été le cas, par exemple, en 2012, avec mon collègue Axel Emery, directeur du musée des Augustins de Toulouse, dans le cadre de Frame, où on a fait cette exposition « Corps et ombres » autour du mouvement Caravage et le caravagisme européen. Donc ça, c'est une exposition qui a pu être faite, réalisée, parce que on s'était vraiment rendu compte, lors de nos voyages en Amérique, qu'il y avait une moisson de tableaux dans ce domaine du caravagisme qui était phénoménale dans tous les musées de région américains et les musées de région français, bien sûr. Et donc, à partir de ce constat, à partir aussi de la collaboration avec des lieux très importants comme Hartford, comme le LACMA Los Angeles, on a pu construire cette exposition qui a été réalisée pendant l'été 2012 en deux volets, le volet montpelliérain et le volet toulousain, et un catalogue unique. Donc ça a été vraiment une très très grosse expérience ces dernières années, mais on a eu Naples, vous le rappelez, avec Nicolas Spinoza, avec Gennaro Toscano, on a fait vraiment là aussi une très très belle exposition qui rendait justice donc à cet âge d'or de la peinture à Naples au XVIIe siècle.
Et vous avez, alors vous faites également des expositions, alors c'est moins le sujet de la Tribune de l'Art, mais là vous allez ouvrir une exposition.
Alors là c'est l'exposition
d'art
qui
plus récent.
Voilà, d'art plus récent, plus, disons, je pense que le musée maintenant a une capacité à explorer d'autres territoires, a une notoriété, a une réputation, a aussi une qualité de sérieux aussi par rapport aux équipes. Je veux dire que j'ai la chance d'avoir une équipe très professionnelle, un service des expositions remarquable, avec des gens très passionnés, très investis, qui ont d'ailleurs réalisé depuis 10 ans toutes ces grandes expositions internationales. Donc on traite un musée de région français, qui traite avec Washington, qui traite avec Orsay, qui traite avec les plus grandes institutions. Donc ça forme, évidemment. Donc là, vraiment, je rends hommage à toute mon équipe, hein, parce que sans cette équipe, j'aurais jamais pu, bien sûr, mener tout ce travail, même si j'ai fixé le cap. En tout cas, on ne travaille que en équipe. Et donc là, cette année, il y a un double anniversaire. Il y a les 10 ans du musée Fabre, 2007-2017, et il y a les 40 ans du Centre Pompidou. Donc là, vous savez que le président Lasvignes a lancé toute une série, une quarantaine d'événements pour fêter cette date importante, cette date anniversaire. Et dans le cadre de ces 40 ans, nous accueillons à Montpellier une exposition avec un commissaire invité, qui est Cécile Debré, qui a imaginé, bien sûr, je l'ai fortement soutenu et fortement encouragé, un face-à-face inédit entre l'artiste anglais Francis Bacon et l'artiste toujours vivant d'ailleurs, américain, Bruce Nauman. Voilà, donc là c'est une exposition qui sera inaugurée le 30 juin prochain et qui, je pense, là aussi montre que le musée peut s'aventurer dans d'autres domaines qui ne sont pas du tout dans son ADN, puisqu'on n'a pas de Bacon, on n'a pas de Nauman à Montpellier, mais par exemple l'année dernière, on a eu une exposition tout à fait importante aussi dans le cadre de Frame avec Cleveland, c'est nous faux. Art et société en Afrique de l'Ouest. Le musée n'a aucune collection d'art premier, mais là c'était une exposition remarquable faite par un excellent conservateur, Constantin Petridis, qui était commissaire invité aussi pour cette exposition, et donc ça a absolument ravi le public, parce qu'il y a une diversité de thèmes, diversité de sujets.
Alors quelles sont les expositions sur lesquelles vous travaillez pour les années à venir?
Alors les expositions que nous avons en préparation, il y a bien sûr l'année prochaine dans le cadre de Picasso Méditerranée, la grande saison qui a été impulsée par Laurent Lebon, il y aura une étape Montpellier-Rennes assez importante effectivement, puisque Montpellier sera le seul musée où il y aura une exposition sur l'ensemble de la carrière de Picasso.
Alors Laurent Lebon actuellement fait une exposition très bonne dont je dois parler, qui se termine qu'en juillet, donc j'ai un peu le temps encore, Jardin, oui. Donc j'ai pas encore eu le temps de parler au Grand Palais, et bien sûr Laurent Lebon est directeur, il faudrait que je le reçoive d'ailleurs à ce micro, du musée Picasso. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu trop d'expositions Picasso? Il y en a partout maintenant, des expositions. Alors là il y a une exposition Picasso à Rouen, Picasso est un immense artiste, parce qu'il n'y a pas trop d'expositions Picasso. Alors maintenant, Montpellier aussi, vous faites des expositions
Alors
Picasso.
Montpellier n'a jamais eu d'exposition Picasso, hormis une exposition au début des années 90, Picasso, l'inograveur. Mais c'est vrai que c'est un artiste qui est entre Espagne et finalement, bon, qui était quand même très lié au sud. Et je trouve que Montpellier a vraiment sa place pour accueillir une exposition Picasso, surtout l'ensemble de la carrière, parce que tout ce dispositif, il y a beaucoup de thèmes.
C'est vrai, sur Picasso. Rétrospective complète,
voilà,
n'a pas
voilà,
depuis longtemps.
Voilà. Ouais. Alors rétrospective avec des dates clés, parce qu'on ne peut pas non plus un artiste comme Picasso qui a une telle longévité, surtout une œuvre aussi vaste et aussi nombreuse, foisonnante, que vraiment là, je crois qu'il fallait qu'on ait une quinzaine de dates clés pour évoquer cette carrière. Mais en tout cas, c'est le projet de l'année prochaine. C'est un projet vraiment, je dois dire, que le Musée National Picasso nous soutient bien sûr fortement, puisqu'on ne pourrait pas du tout monter une exposition. Le Musée Fabre, je rappelle, n'a pas de Picasso, hormis la suite Vollard. Donc, c'est le grand projet pour l'année prochaine. On a aussi en préparation, avec Pierre Stepanov, une exposition autour du Grand Tour, et précisément à partir de la personnalité majeure de Louis Gauffier. Nous avons acheté des Gauffiers très importants ces dernières années. Le fond de Montpellier était déjà d'ailleurs très beau, puisque Gauffier a été un ami proche de Fabre, qui a lui-même pu acheter et léguer du coup tous ces tableaux à Montpellier. Mais on a vraiment un ensemble maintenant qui est tout à fait cohérent, surtout un ensemble de paysages absolument remarquables. Et j'aimerais que, à partir de Gauffier, on puisse évoquer ce milieu international du Grand Tour à Florence, surtout la Toscane, mais peut-être pas que. Et en tout cas, c'est une exposition que j'aimerais faire en collaboration avec d'autres musées. Donc là, je lance des appels, puisque...
Profitez-en, effectivement, je pense qu'on sera écouté par pas mal de musées. C'est pour quelle année?
Alors là, on est horizon 2019, 2020. Ça peut, comme elle n'est pas encore totalement implantée, on peut peut-être éventuellement, en fonction des musées qui pourraient s'intéresser à cet artiste, on pourrait peut-être un tout petit peu changer l'ordre et la chronologie de la présentation. Mais en tout cas, c'est dans cette optique, et on a déjà beaucoup avancé avec Pierre Stepanov sur la sélection des œuvres.
Et comme autre projet dont vous pouvez parler, parce que je suis sûr que vous avez beaucoup de projets, mais ceux dont vous pouvez parler, éventuellement même des petites expositions ou des plus grosses expositions ou des...
Alors, on a, pour rendre hommage quand même aussi à une personnalité qui est fortement liée à Montpellier, Vincent Bioulès, qui a été un des grands acteurs du mouvement Support Surface, avec tous ses amis, Deuzeuse, Viala, en gros tous les gens issus de l'atelier d'Escossi, à la fin des années 50 et début des années 60. Bon, là, il y a eu une moisson extraordinaire à Montpellier, avec beaucoup d'artistes qui ont après mené de très belles carrières, et... Vincent Bioulès travaille à Montpellier depuis une cinquantaine d'années, et en fait on a décidé en 2019 de lui rendre hommage avec une rétrospective absolument complète sur son travail, depuis la période abstraite d'ailleurs jusqu'à la période figurative actuelle.
Parlons maintenant des acquisitions. Alors là, je ne sais pas par où commencer, parce que c'est vrai que depuis que vous êtes arrivé au musée Fabre, soutenu d'abord par Georges Frêche, et maintenant on s'inquiétait. C'est vrai que Georges Frêche est disparu brutalement. Il a été remplacé par Philippe Sorel, et que j'ai rencontré lors de visite, et j'étais agréablement surpris de voir quelqu'un qui s'intéressait au musée, qui était très ouvert et qui continue manifestement la ville, c'est une métropole, c'est un musée de métropole maintenant, c'est ça ? Métropole continue à soutenir le musée, vous êtes le musée et ça prouve que c'est possible. Et chaque fois, ça fait parler du musée, donc c'est des choses qui sont quand même vertueuses. Et puis vous exposez, vous montrez vos œuvres, vous enrichissez vos collections. Ça prouve que c'est possible et que ce n'est, qu'un musée en région peut avoir une politique d'acquisition très active. Mais c'est même sidérant parce que vous achetez aussi bien des artistes dont on a parlé, ces artistes dont vous complétez le fonds parce que ce sont des artistes importants pour Montpellier, mais également par exemple un Wright of Derby, ce qui est quand même un artiste excessivement cher. Il n'y a que le musée de Montpellier, à part le musée du Louvre éventuellement, qui pourrait acheter qui a un Wright of Derby d'ailleurs, il y a quelques années. Mais comment vous faites pour avoir cette politique aussi active d'acquisition? Vous avez, je sais, des fonds à côté que vous trouvez par des amis, par le cercle. Expliquez-nous comment un musée de région ou de province, moi pour moi le terme province est un beau terme, je sais que certains n'aiment pas ce terme-là, mais moi je viens de dire musée de province, arrive à avoir une politique aussi extraordinaire d'acquisition.
D'abord, Montpellier est un musée qui nous oblige à être constamment en alerte sur le marché de l'art, car il y a énormément d'artistes qui sont originaires de Montpellier et des grands noms. Évidemment, c'est pas du tout faire du régionalisme là, mais au contraire, beaucoup d'artistes, par exemple, on surveille le marché de l'art sur Bourdon, sur Raoult, sur Fabre. D'ailleurs, ces artistes ont été considérablement complétés dans la collection, et l'accrochage maintenant montre que l'ensemble des Gauffier, l'ensemble des Fabre, l'ensemble des Cabanel, l'ensemble des Raoult, c'est tout à fait exceptionnel à Montpellier, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore 20 ans. Donc bien sûr, on surveille tous ces artistes. On a fortement aussi ouvert la collection sur le 20e siècle. Je rappelle qu'il y avait très très peu de choses, et qu'aujourd'hui la salle, grâce à la collaboration avec la galerie Fournier, est vraiment un espace incontournable du musée. Bien sûr, la collection Soulages, mais en dessous les entailles, tous les acteurs du support surface. Donc nous avons acheté par dizaines et par dizaines toutes ces œuvres. Le musée s'est considérablement enrichi, aussi bien d'ailleurs en objets d'art qu'en faïence, tout ça pour le département des arts décoratifs.
On pourrait en parler de un mot.
Voilà, de l'hôtel Sabaté d'Espérant, qui est en face du musée, mais qui est un département du musée Fabre. Et la sculpture, la peinture, vraiment toutes les techniques ont été convoquées. Et c'est vrai que c'est un musée qui a énormément changé dans sa physionomie, parce que toutes ces acquisitions sont venues nourrir des accrochages, des réaccrochages. Et l'une des caractéristiques de Montpellier, depuis quelques années, c'est de proposer de nouveaux accrochages régulièrement. D'ailleurs, Pierre Stepanov, les conservateurs, ont fait récemment de très très beaux réaccrochages pour précisément mettre dans ces accrochages les nouveaux venus. Et ça permet de lire complètement différemment la collection. Et je considère que l'enjeu des musées de demain, c'est de trouver le juste équilibre entre l'activité temporaire, qui doit bien sûr continuer, la preuve Montpellier est très actif dans ce domaine, mais surtout mettre l'accent sur les collections permanentes.
Vous n'avez pas dit comment vous arriviez à trouver, parce que ça demande des moyens financiers importants.
Alors d'abord, ça a été de convaincre, puisqu'on revient un petit peu à ce qu'on disait au début, convaincre les élus qu'un musée qui n'achète pas est un musée qui meurt.
Pierre Rosenberg
voilà,
qui dit ça.
Voilà. Et ça c'est vrai, parce que j'avais déjà convaincu Georges Frêche en son temps de débloquer des crédits, d'abord pour acheter les basiles. Donc c'est vrai que là on était déjà monté d'un cran, puisque on avait surveillé ces basiles. Georges Frêche m'avait fortement soutenu. On a pu acheter le jeune nu couché sur l'herbe, la petite italienne chanteuse des rues, le bouquet de narcisses, enfin ces tableaux de basiles magnifiques qui sont bien sûr accrochés à Washington hein, actuellement au moment où je parle. Mais donc on était monté d'un cran. Ce qui a permis aussi de monter d'un cran dans les crédits, dans le volume des budgets, c'est la reconstitution du Poussin. Donc le fameux Poussin, le paysage avec Vénus et Adonis, que j'ai eu la chance de pouvoir réunir, que j'ai trouvé à New York. Et là aussi, ça avait été un trésor national qui a permis de monter encore dans les sommes.
Je me rappelle une anecdote à ce sujet. Je me rappelle avoir participé à un voyage de presse à ce moment-là, et on a déjeuner dans la propriété de Basile, et j'étais à la table de Georges Frêche, et je me rappelle, c'est vrai que c'était quand même un personnage, alors assez impressionnant en termes de volume, etc. Il se lève et il dit, alors ce poussin avec son accent du sud, ce poussin, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Alors, évidemment, tous les journalistes ont dit oui, mais c'était assez amusant parce qu'il était... Il se posait pas la question de savoir s'il fallait l'acheter, en fait. Il était sûr qu'il fallait l'acheter. Bien sûr. Se posait pas cette question. Il y arrivait. On y arrive.
On y arrive et il m'avait d'ailleurs tout à fait soutenu. Alors, c'était un trésor national. Donc, on avait bien sûr des entreprises qui pouvaient défiscaliser. Ça, c'est l'intérêt aussi d'une telle opération. Enfin, on a quand même eu l'aide de la municipalité, enfin, de la métropole maintenant. Et on a eu aussi des mécènes privés et la fondation d'entreprises. Puisque aussi, ce qui a permis d'avoir tous ces subsides, c'est qu'en 2007, au moment de la réouverture, l'agglomération a souhaité créer une fondation d'entreprise, un club de mécènes en gros, qui réunissait 25 membres avec un président et qui était dédié au musée Fabre et principalement autour des acquisitions. Pas exclusivement, on pouvait aider sur un catalogue ou éventuellement aider sur une restauration, mais quand même principalement c'était dédié à l'enrichissement des collections du musée. Et ça continue toujours parce que même malgré les difficultés financières que nous rencontrons aujourd'hui dans notre pays, les baisses des crédits sur la culture, le tissu entrepreneurial aussi qui est relativement faible dans le sud, dans la région, on a quand même perdu des membres au fil des années. Et là, avec la venue d'un nouveau président, depuis ces derniers temps, Max Ponseiller donc, a permis de redynamiser cette fondation et nous sommes remontés à 28 membres, ce qui est considérable aujourd'hui. Hein, donc beaucoup d'entrepreneurs, petits, gros, moyens de la région, sont dédiés au musée Fabre. Alors bien sûr, ils sont très attachés à ce musée. C'est un musée très prestigieux aussi, qui flatte beaucoup, entre guillemets, l'orgueil local.
Il est devenu, comme vous rappeliez,
absolument.
C'était pas le cas avant.
C'était pas le cas avant.
C'est une politique qui a emmené ça.
C'est maintenant, les Montpelliérains, en tout cas, tous ces chefs d'entreprise sont très très fiers d'être membres de la fondation du musée Fabre. Nous leur avons rendu hommage, d'ailleurs, cette année, en 2017, avec le président Philippe Sorel, en dévoilant une plaque à l'entrée du musée où nous listons l'ensemble des mécènes qui ont collaboré et qui ont participé à l'enrichissement de ce musée depuis 10 ans.
Parlons maintenant un peu de la publication des collections. C'est également un rôle important des musées de faire savoir ce qu'ils conservent. Il y a donc plusieurs catalogues qui sont parus récemment et il y a certainement encore un travail en cours.
Alors, on a publié, précisément pour se rendre compte un petit peu du caractère très foisonnant finalement de ces acquisitions, on a publié le catalogue des acquisitions depuis 20 ans. Voilà, donc toute technique d'ailleurs confondue, tous les siècles, ce qui fait qu'on voit dans sa diversité ce qui est conservé au musée Fabre et ce qui vient nourrir tous ces accrochages dont je vous ai parlé. Alors ensuite, on a en chantier plusieurs catalogues. J'aimerais qu'on termine la publication de la peinture française du XVIIIe siècle, puisque le premier tome de Olivier Zeder avait paru il y a quelques années. Par contre, le second, la documentation est très très avancée, mais je pense que c'est un travail que pourra mener à bien Pierre Stepanoff. Il y a aussi le grand projet Bruyas. Alors Bruyas a été beaucoup publié de façon un peu parcellaire et dans un catalogue américain dans le cadre de Frame, pendant la fermeture du musée, dans la première moitié des années 2000. Mais il manque une grande publication en français complète sur la collection Bruyas. Donc ça, c'est un chantier que j'aimerais aussi remettre sur les rails et avoir une équipe là autour, puisqu'il y a plusieurs spécialistes qui pourrait fortement nous aider, et même des collègues américains qui avaient déjà d'ailleurs travaillé sur le sujet.
Et également, vous avez en projet, je crois, un catalogue des peintures italiennes.
Alors, on a un projet sur les peintures italiennes, puisque nous avions accueilli il y a quelques années Benjamin Couillot, qui était venu dans le cadre de son stage à l'École nationale du patrimoine et qui avait commencé ce travail et qui d'ailleurs sera mené à bien. On est actuellement là en train de rechercher des mécènes pour aider cette publication qui, je pense, va être assez copieuse. Donc, en tout cas, Benjamin Couillot a beaucoup avancé son travail et je souhaite que ce catalogue puisse être publié, peut-être si on y arrive, à la fin de l'année prochaine ou au tout début de l'année suivante.
Alors maintenant, parlons un petit peu des musées en France. On voit qu'un musée comme le musée Fabre fait des acquisitions, fait des restaurations. Certainement, on pourrait peut-être dire aussi
beaucoup,
un mot des restaurations.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez restauré, par exemple, récemment?
En fait, si vous voulez, le musée a été fortement restauré. Les collections ont été restaurées pendant la fermeture. Donc là, c'est sûr qu'il y avait un chantier énorme, chantier des collections, parallèlement d'ailleurs au chantier architectural pour pouvoir rouvrir construire dans de bonnes conditions. Et là, on avait une somme considérable, près de 3 millions d'euros, pas tout à fait, mais presque, qui a été consacrée à la restauration de l'ensemble des collections et des cadres, d'ailleurs, des cadres historiques et la création, d'ailleurs, de nouveaux cadres. Mais nous avons... chaque année, depuis cette date, continuer à avoir des sommes d'environ 200 000 euros pour continuer à restaurer et à entretenir la collection. Et surtout les nouvelles acquisitions.
Donc acquisition, restauration, publication, exposition. Donc c'est tout ce qui fait le cœur du travail d'un musée. On a l'impression, aujourd'hui, vous l'aviez dit tout à l'heure, il y a des réductions de budget, alors pas à Montpellier ou pas beaucoup en tout cas, ça c'est sûr, mais il y a des musées qui ferment, il y a des musées qui sont en difficulté, il y a de moins en moins d'acquisitions, moi ça me frappe beaucoup, en tout cas des acquisitions, on en a beaucoup, on en parle beaucoup sur la Tribune de l'Art, mais forcément elles se réduisent en termes d'importance, il n'y a que 2-3 musées en France qui peuvent acquérir des œuvres importantes, il y a vous, il y a Lyon, il y a des musées qui sont très actifs maintenant comme Orléans, comme Rennes, etc., mais des musées qui peuvent acquérir des œuvres telles que White of Derby ou Poussin, il y a vous et les musées de Lyon. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la politique des musées? Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à cela? Et qu'est-ce qui permettrait aux musées de s'en sortir mieux? C'est une vaste question.
C'est une très vaste question. C'est vrai que Montpellier a la chance d'avoir eu cette rénovation. Je pense que là, c'est vraiment... ça a été historiquement très important de se situer au début des années 2000. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver les subsides nécessaires pour rénover un tel musée. On a eu la chance de le faire finalement au bon moment. Et donc d'avoir un outil formidable, rénové, qui nous permet de rayonner et qui nous permet de maintenir notre place en fait. Parce que l'enjeu a été depuis 10 ans de maintenir cette place, cette très belle place conquise en 2007, il fallait la garder, parce que c'est toujours un problématique, hein, la rénovation. Ça peut retomber 2 ans, 3 ans après, une fois l'effet de surprise passé. Voilà, donc nous, on a maintenu le cap, mais je dois dire aussi que c'est quelque chose qui s'est construit sur presque une vingtaine d'années, parce qu'on voit bien qu'il y a eu je dirais 7-8 ans pour convaincre, après il y a eu 7-8 ans pour rénover, études, chantiers, etc. Et puis une petite 7-8 ans après pour lancer et mettre sur orbite le musée. Donc il faut tout ce temps pour reprendre une place quand un musée a perdu autant d'aura dans une ville. Parce que le musée Fabre a été porteur au 19e siècle. On voit bien l'émulation qu'il y a eu avec Fabre, avec Valédo, avec Bruyas, etc. Il faut bien dire qu'au 20e siècle, quand même, cette émulation est retombée et on partait... vraiment d'un constat qu'on avait perdu énormément de temps et que le musée, pendant la première moitié du XXe siècle et même la deuxième, avait accusé un retard sérieux. Et donc maintenant, c'est vrai qu'on est revenu dans le paysage français, en tout cas pour le Grand Sud, mais je rappelle que Montpellier n'est que la 7e ou 8e ville de France. Ce n'est pas du tout Lyon. Lyon, c'est la première ville française, avec peut-être Marseille, enfin en tout cas, les deux villes sont en compétition. Enfin, Lyon, c'est un bassin de population qui n'a rien à voir avec Montpellier. Et donc l'excellence de Montpellier, il faut la comparer aussi à la taille de la ville.
C'est encore plus impressionnant, c'est-à-dire que quand on pense, et là c'est moi qui parle, ce n'est pas vous, je ne veux pas vous poser de problème, mais quand on voit des villes comme effectivement Marseille ou Bordeaux, on ne peut pas dire que les moyens mis par la ville dans leur musée, c'est assez inquiétant. C'est pour ça que je disais que les musées ne sont pas finalement très à la mode actuellement, et que malgré tout, ça serait possible. Si le maire de Bordeaux décidait de faire comme pour Montpellier, il aurait beaucoup plus de moyens. Si Marseille décidait de faire pour son musée ce que Montpellier a fait pour son musée, donc Montpellier, 7e ou 8e ville de France, c'est ici au tout premier rang des musées français. Mais vous n'avez pas répondu sur cette politique globale des musées. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous pensez qu'on est au creux de la vague ou qu'on va arriver à remonter? Et quelles seraient vos solutions?
On est dans un moment critique. Je crois qu'il ne faut pas le nier. Il y a eu un fort élan dans les années 80-90. Montpellier en a bénéficié au carrefour des années 2000, c'est évident. Il a construit sa notoriété grâce aux acquisitions, vous l'avez dit, aux expositions. Mais c'est un moment critique parce qu'on voit bien qu'on est en train de changer un peu de société. Il y a de nouveaux intérêts qui arrivent, il y a de nouvelles générations, il y a le multimédia qui a pris une place absolument phénoménale dans notre société. C'est une société qui va très très vite. L'histoire de l'art, c'est quand même compliqué, c'est souvent très étranger et très éloigné des préoccupations du très grand public. On voit bien que la peinture ancienne du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, les gens n'ont plus tellement ces clés de lecture. Et ce qui fait la richesse de tous ces musées de région français, c'est quand même cette peinture classique, cette peinture très fortement marquée par l'iconographie chrétienne, entre autres, hein, antique. Donc tout ça est de plus en plus éloigné des préoccupations des gens. Et donc, on voit bien qu'il faut réinventer autre chose. Il faut se réinventer continuellement. C'est pour ça que je pense que l'enjeu, c'est vraiment maintenant de se concentrer sur les musées eux-mêmes, sur la médiation culturelle, ce qu'on essaie de faire à Montpellier, sur la formation, parce que je pense que c'est absolument irremplaçable de former très jeune, d'éveiller et surtout d'inventer de nouvelles façons d'intéresser les publics. On ne peut pas imposer. Un musée, c'est un lieu de liberté, c'est un lieu de délectation, c'est un lieu de savoir aussi. Mais il faut donc que les équipes de médiateurs, que les conservateurs se remettent constamment en question pour réinventer la manière dont on a envie de faire connaître le musée. Mais c'est vrai que c'est un défi à l'heure actuelle. Ça demande de la part des gens qui ont la direction de ces musées, des équipes qui y travaillent, ça demande une forte mobilisation parce que l'époque est en train de basculer, est en train de changer. Et si on loupe le train, je pense que là, les musées peuvent s'enfoncer dans un long sommeil qui a été d'ailleurs celui qui est des musées dans la seconde moitié du 19e siècle et une grande partie du 20e siècle.
Maintenant, parlons de vos découvertes récentes. Est-ce que vous avez vu des expositions, lu des livres qui vous ont particulièrement marqué en dehors de Montpellier? Là, on sort de ce champ. Est-ce que vous voulez parler d'une ou deux expositions qui vous ont marqué récemment?
Eh bien, écoutez, récemment, ce que j'ai vu, c'est tout récemment, puisque finalement j'ai eu la chance de découvrir l'exposition, puisque j'étais à Paris lundi soir pour les portraits de Cézanne au musée d'Orsay. Donc là, j'étais absolument ravi de voir cette collection, ce rassemblement d'œuvres que finalement on connaît, et d'ailleurs pas tous, parce qu'il y avait beaucoup de collections particulières et des tableaux que j'avais jamais vus. Et en même temps, on s'en souvient quand on est passé à Chicago, à Washington ou à Boston, on se dit tiens voilà, et là tout d'un coup on les voit tous réunis, et je dois dire que c'était quand même assez saisissant, plus bien sûr les chefs-d'œuvre d'Orsay qui étaient en première ligne, mais là vraiment je dois dire que c'est un artiste qui actuellement m'intéresse beaucoup, donc ça tombait bien parce que c'est un artiste sur lequel je lis pas mal de choses, et donc j'étais absolument ravi de voir cette exposition, sans doute aussi parce que je sortais de Basile, et finalement les débuts de Cézanne, c'est aussi un méridional, hein, comme Basile qui a commencé à faire parler de lui au cours des années 60, un petit peu comme Basile. Mais bien sûr, la différence de Basile, il a eu la longévité qu'on connaît, et Basile est mort à peine 28 ans. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Je voudrais dire qu'il y a deux expositions que je voudrais absolument voir, et je vais d'ailleurs y aller très vite. C'est les paysages au musée d'Orsay, avec tous ces paysages qui, là aussi, sont finalement assez, je pense, inédits. Hein. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Et puis, la grande exposition de Christophe Le Ribaud au musée du Petit Palais sur le 18e siècle que je vais découvrir, que j'ai pas encore vu, et ça je dois dire que c'est
merveilleuse, remarquable.
J'ai reçu le catalogue puisque le musée Fabre est prêteur avec Vien, mais je dois dire que là je suis très 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 désireux de la voir, et aussi l'exposition Jardin dont on parle beaucoup
à juste titre, car cette exposition Jardin est absolument remarquable, et nous lui consacrerons dans les jours qui viennent un article. Merci pour cette interview très riche, et encore bravo pour ce que vous faites pour le musée Fabre. Et je pense que nous retrouvons bientôt le musée Fabre pour de nouvelles acquisitions. Des fois, je dis, mais pourvu que le musée Fabre n'achète plus, je n'arrive pas à suivre. Merci en tout cas, Michel.
Merci beaucoup.